Hola a todo el mundo. Ahora, el momento tanto esperado.
Est-ce qu'on déguste? Bonjour. Bravo, c'est Paul Chéreau qui est à la manœuvre pour déboucher un vin blanc venu des Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques évidemment, on est au Pays Basque avec l'Irouligui. Pyrénées, le mot est lâché, c'est une émission spéciale sur cette frontière naturelle entre les Espagnols et nous. Et donc on va aujourd'hui parler beaucoup de ces montagnes avec Anne Lasserre-Vergne. Bonjour Anne Lasserre.
Bonjour Rémi.
Merci d'être là. Vous êtes docteur S lettres, vous avez fait deux thèses sur les Pyrénées centrales dans la littérature française et le légendaire pyrénéen. Vous écrivez aussi des nouvelles, il y a un ouvrage que j'ai devant moi là qui s'appelle L'âme en vrac, et puis des poèmes aussi. Et là, il y a les cailloux seront plus doux sous vos pas. Donc, on va faire connaissance. Vous êtes pas des Pyrénées. Vous n'êtes pas native des Pyrénées, mais enfin, vous les connaissez par cœur. Et puis, vous y avez vécu un petit peu aussi.
Voilà. Ouais, moi, je suis née à Toulouse. Et mon père, qui était officier dans l'armée de l'air, finalement, j'ai fait mes études aussi bien à Tahiti qu'à Alger, qu'à Reims ou...
Voilà.
Ou à Toulouse, ou à Pau. Et les Pyrénées, c'est tout à fait par hasard. Là, c'est l'éducation nationale, comme j'étais professeur de lettres, qui m'a envoyé dans les Hautes-Pyrénées, dans les Pyrénées-Atlantiques, dans les Landes. Et c'est pour cela que je me suis intéressée aux Pyrénées, parce que quand j'ai voulu faire une première thèse sur les Pyrénées, à Pau, il fallait faire une thèse régionaliste. Et quand j'ai fait la deuxième à Toulouse... Monsieur Ravier voulait absolument que je la fasse sur le légendaire pyrénéen.
Et ben voilà.
C'est pour ça que je me suis spécialisée dans les Pyrénées.
Et ben, on a fait connaissance cette semaine, puisque vous étiez l'invité il n'y a pas très très longtemps d'une autre émission sur CFM Radio, qui sont les rendez-vous de l'Académie. Et donc, je vous ai dit, bah tiens, nous, ça va nous faire un sujet détourné, comme ça, à qu'est-ce qu'on déguste avec les copains et les copines. Il y a Émilie qui est là, salut Émilie.
Bonjour à tous.
Qui n'a pas du tout prévu une chronique autour des Pyrénées.
Non, j'avais pas envie de faire un truc autour... Enfin, c'est pas que j'avais pas envie, j'avais pas du tout l'inspiration. Alors, plutôt que de faire quelque chose de capillotracté, je vais quand même parler d'art, mais ça ne sera pas d'artiste des Pyrénées.
D'accord, le sourire.
Le sourire dans l'histoire de l'art, ou plutôt le non-sourire.
D'accord. Georges, bonjour.
Bonjour. Petit séjour dans les Pyrénées d'un des artistes. Je vais parler aujourd'hui d'un artiste pyrénéen. De jazz, bien sûr, Guy Lafitte. Et en plus, il a écrit un poème qu'il va nous réciter. Et comme ça, on aura un vrai accent des Pyrénées et du Sud.
D'accord. Paul Chéreau, tu nous régales ce soir avec de l'Irouligui.
Voilà, petit domaine Ilaria.
D'accord, Irouligui, tu nous expliqueras tout ça tout à l'heure. Dans le courant de cette émission, il devrait y avoir Philippe Audard qui devrait nous rejoindre. Avec lui, on passera un coup de fil un peu plus tard à Loie Gourmande. C'est une petite entreprise artisanale de l'Ariège qui fabrique des gâteaux, des petits sablés, tout ça. Donc on leur passera un petit coup de fil. On passera aussi un coup de fil, avant ça même, à Patrick Duller, du domaine de Saint-Géry. Patrick Duller, paysan cuisinier ou cuisinier paysan, le luxe dans la simplicité, le jambon haute couture, la truffe, voilà tout ça.
Ce qu'on aime.
Là-bas dans le Quercy blanc, qu'on avait reçu il y a quelques années ici pour lorsqu'il avait été élu meilleur jambon du monde.
À Barcelone.
Voilà. Et comme ce garçon a été une partie de sa jeunesse à Notre-Dame de Garaison, qui est une école catholique sur laquelle Anne Lasserre rédige actuellement un ouvrage, hein, c'est ça ?
Oui, je travaille, je l'ai presque terminé, c'est pour le centenaire du rachat de l'établissement scolaire de Garaison par les anciens élèves, et cela fera 100 ans en 2023,
voilà,
en
janvier 2023. Vous nous en parlerez, et c'est elle qui m'a donné l'idée d'appeler Patrick Duller, puisque Patrick Duller va se retrouver évidemment pour quelques pages dans cet ouvrage.
Oui.
Voilà. Aurélien est à la technique de cette émission. C'est qu'est-ce qu'on déguste ? À la vôtre. Et ça commence comme ça. Santé. Comment? C'est rosé.
Il a goûté les rouges.
Et j'ai oublié de dire aussi mais, qu'on a une belle assiette de fromage pyrénéenne qui nous a été offerte par La Fine Bouche. On continuera d'en parler tout à l'heure. Il y a un ordre de dégustation que Laurent Bassino m'a confié. After I'm done working the stage or putting funky words to a page, take your pick, and either way I will be sure to amaze. And when I make a track, I craft and innovate to shape a drum break. I catch and recreate as I collaborate with Bristol's finest. The beat's banging, the music's timeless. We're the groom and the man, rolling like we're moving the brand. Loading gear, ain't no room in the band, we're bringing the boom in the band. But the band will be rocking the leap in the block and see me sharp and chopping the beef. For the creep who wants a beef, you talking to me? You talking to me? My lung capacity has to be second to none. When I rap, there'll be no one on after me. Technically, I won't be trapped in the category. Honor me when I'm on the league, copy the top ramen. A common, I'm an anomaly. So get your needle and drop it. On a record this pack, one more electricity than a socket. Just listen to the people applauding. I'm always aiming to please. If you need it, I got it. I'm the utility man. I'm the utility man. You might need to hire a utility man. That's right, I'm the utility man. Money shot, utilize that. On est sur quoi, Aurélien, sur cette ouverture?
Ben là, pour le coup, on était loin des Pyrénées. On fait un petit peu plus au nord, puisqu'on était en Angleterre avec The Allergies.
Est-ce qu'on déguste, donc, spécial Pyrénées pour, pouvoir mieux rencontrer Anne Lacervergne, qui est notre invitée aujourd'hui, spécialiste des Pyrénées. Quand on devient spécialiste des Pyrénées, Anne Lacer, pour écrire une thèse, est-ce qu'on devient amoureuse des Pyrénées ou pas du tout? Ou est-ce que c'est finalement un objet d'étude comme un autre?
Alors non, on peut devenir effectivement amoureuse des Pyrénées, mais je dois vous préciser tout de suite que je ne les gravis pas. La montagne à vaches, d'accord, mais pas question de gravir les sommets et encore moins de m'encorder. Mais j'avoue que j'adore les découvrir à travers les récits de voyage et sur une carte. Ça, d'accord. C'est ma passion.
Pas en allant à la rencontre, façon un peu, ethnologue, un peu aller à la rencontre des gens, comme certains de vos personnages que vous présentez, des auteurs que vous présentez dans le légendaire pyrénéen, qui vont à la rencontre pour faire parler les habitants de leur légende, tout ça. Non, ça vous ne serait pas?
Je ne le fais pas beaucoup, sauf lors de conférences. Mais le problème, c'est que je suis devenue spécialiste des Pyrénées au 18e et au 19e siècle. Donc, c'est un petit peu difficile maintenant de rencontrer ceux qui ont écrit sur les Pyrénées. Mais au hasard de conférences ou de salons du livre, effectivement, on peut discuter avec des Pyrénéens d'aujourd'hui.
D'accord. Bon, parlez-nous de vous un peu. Alors, vous nous avez dit que vous avez beaucoup voyagé, Anne Lasserre.
Oui, alors, par exemple, j'ai fait 14 établissements scolaires, mais parce que mon père voyageait beaucoup. C'est pour cela que certaines personnes ont cru que je m'étais fait renvoyer de tous les établissements que j'avais fréquentés. Donc, je rassure les auditeurs, ce n'est pas le cas. Oui,
ça vous est arrivé.
Voilà.
Bon, alors, Paul, si je comprends bien, ça vous est arrivé.
Madame est doctorante, donc bon, on se calme.
Voilà. Donc oui, vous vouliez que je parle
les Pyrénées. Les Pyrénées, vous y êtes arrivé quand? À quel moment?
Alors moi, j'y suis arrivée au début de ma carrière, et justement, j'ai commencé à Notre-Dame de Garaison, c'est pas très loin de Lannemezan, parce que l'Éducation nationale au départ voulait m'envoyer du côté de Nancy. Bon, mon cœur battait pour les Pyrénées. Donc, j'ai réussi à trouver un poste à Garaison. Et puis après, le hasard a fait que j'ai été nommée dans les Pyrénées-Atlantiques, dans les Hautes-Pyrénées.
Bon, ça aide pour écrire des thèses. Non, ou les thèses, elles avaient été faites avant ou
Non, elles ont été faites tout en travaillant. Ouais, d'accord. Bon, parce qu'il faut quand même s'entretenir. Bon, bien sûr, on apprend des choses en enseignant. Par exemple, j'ai appris que Hercule était le nom de jeune fille d'Héraclès. Bon, mais de temps en temps, il faut pouvoir se continuer donc à s'entretenir. C'est pour ça que j'ai fait deux thèses.
Donc, alors, particulièrement donc, sur les écrivains, enfin la littérature française, les Pyrénées dans la littérature française à une époque précise. Hein,
oui, l'image des Pyrénées dans la littérature française, là, c'était dans les années 85. Et ça m'a fascinée parce que je me suis rendu compte à quel point on est marqué par son époque et qu'on pose un regard sur ces montagnes. Et c'est le regard de notre époque. Mmh. À un moment, c'était un regard tout à fait scientifique, à la fin du 18e. Puis, à l'époque romantique, on s'y promène comme dans une galerie de tableaux. Finalement, on demande à ces montagnes, qui sont à la fois belles et effrayantes, de nous exalter, de nous terrifier. Et puis, vers 1850, on commence à les gravir, à les conquérir et à les nommer, parce qu'il y a plein de sommets pyrénéens qui n'ont pas été découverts, qui n'ont pas été gravis, qui ne sont pas nommés encore.
Il y a un Montalbanais qui a donné son nom à un pic.
Oui, ouais. Édouard Vallon. Mmh. Édouard Vallon, qui est né en 1821, je crois, à Montauban, si je ne me trompe. Et je crois qu'il était pasteur, non? Je
ne voudrais pas... Alors là...
Et bon, il a été aussi cartographe.
Spécialiste.
Hein, il était... Et qui était cartographe aussi.
D'accord. Et alors moi, je me suis particulièrement intéressé à votre ouvrage sur le légendaire pyrénéen. On avait raconté à ce même micro, mais il y a des années en arrière, donc je ne m'en rappelle plus, comment dans la légende était née, il y a une histoire d'Hercule justement, ou quelque chose comme ça, comment sont nées les Pyrénées. Vous nous raconteriez cette légende-là, c'était
alors,
c'est quoi ça?
Alors, je vais essayer de m'en souvenir. Donc il y a effectivement Hercule qui traverse les Pyrénées pour passer, avant de passer en Espagne, et il est logé chez le roi Bébrix, qui est en Ariège. Je crois que vous êtes de l'Ariège, non?
Non, mais pas tout à fait. J'aimerais
vous aimer. Donc, qui est logé chez le roi Bébrix, et il tombe amoureux de sa fille Pyrène. Mais il doit partir faire, nettoyer les écuries, peut-être d'Augias. Oh, voilà, en Espagne. Et pendant Pyrène l'attend. Et tous les soirs, elle se promène dans les bois parce qu'il ne revient pas. Et un jour, elle est dévorée par des animaux sauvages. Et quand il revient, il est si désespéré qu'il entasse pierre sur pierre pour faire un tombeau pour Pyrène. Et cela devient les Pyrénées. Et on dit, les Ariégeois disent, que les restes de Pyrène seraient dans la grotte de Lombrive. Je n'ai pas vérifié.
Encore une histoire d'amour.
C'est une très belle histoire.
Très belle histoire.
Alors,
déjà, juste. Il y avait des soucis à les animaux sauvages.
Ouais.
Petite parenthèse sur la dégustation de notre ami Laurent Bassineau, la fromagerie La Fine Bouche à Montauban, qui nous propose donc de commencer cette dégustation de fromage des Pyrénées par la tome du Soulor. C'est un fromage mixte entre vache et brebis. C'est fait dans les Hautes-Pyrénées, donc l'endroit que vous avez plutôt étudié.
Hein, oui.
Et voilà, il nous dit que c'est très fruité, beurré, et que c'est un régal. Et moi, je confirme. Je ne sais pas, vous avez...
Nous sommes d'accord.
Vous y êtes. Bon, avec un peu d'Iroulégui, ce sera un peu mieux. Et finalement, donc, restons sur ces légendaires pyrénéens, si vous voulez bien. L'objet de l'ouvrage là que vous avez fait, c'était d'essayer d'expliquer, d'analyser les légendes, d'où elles venaient, en fait, dans les Pyrénées, c'est ça ?
Oui, à la fois d'où elles venaient et en même temps de montrer ce qu'elles disaient. Et en fait, elles sont devenues pyrénéennes. La plupart appartiennent à un fonds commun légendaire. Là, ce n'est pas très nouveau. Mais les Pyrénéens les ont adaptées, les ont adoptées. Et finalement, à travers toutes ces légendes, on peut voir la misère des Pyrénéens. On peut voir leurs croyances. On peut voir leur vie sociale. On peut voir les lieux qu'ils habitaient plus précisément. Et à propos de leur misère, si vous permettez que j'en parle maintenant, il y a justement le jeune Eugène Viollet-le-Duc qui vient dans les Pyrénées en 1833. Il a 18 ans. On lui offre ce voyage parce qu'il a obtenu son baccalauréat. On offrait un voyage dans les Pyrénées à cette époque-là. Il est un des rares voyageurs à se promener à pied parce que l'effort physique n'est pas du tout à la mode. Et il va partager le repas de berger. Et un repas de berger, c'était un morceau de pain noir au fond d'une écuelle et on versait de l'eau dans laquelle avait bouilli un petit morceau de lard sur le pain noir. Et c'était tout. Et très souvent, les Pyrénéens, pendant 365 jours de l'année, dans la partie montagneuse, hein, qui était très pauvre, mangeaient de pain noir, d'une pâte de maïs, d'un laitage, et ne buvaient pas de vin. Il fallait aller au 19e siècle dans les grands hôtels, la grande époque des stations thermales, pour en boire.
Et alors, c'est ce que j'ai lu. Il y a des passages de livres que vous citez dans votre ouvrage, là, le légendaire pyrénéen, où les touristes qui vont dans ces stations thermales sont étonnés de toute cette mendicité, quoi. Dès qu'on arrive quelque part, il y a les enfants qui mendient, les parents qui mendient, tout le monde mendie, en fait, hein, dans les Pyrénées.
Oui, et du coup, il y avait même des arrêtés pour interdire la mendicité. Bon, ils cueillaient une fleur, contre une fleur, on donnait un peu d'argent, mais effectivement...
On traitait des ours aussi, pour gagner un peu d'argent.
Oui, surtout en Ariège.
En Ariège, oui.
Voilà. Où il y avait les dresseurs d'ours. Voilà. Et oui, cette mendicité était énorme. Et je pense qu'elle s'est développée à partir du moment où il y a eu le début du tourisme, finalement, dans les années 1820-1830, et où on a vu arriver des gens qui avaient de l'argent. Et du coup, se sont multipliés plein de petits métiers que j'ai découverts, par exemple les décrotteurs. Alors les décrotteurs, bon, il faut imaginer Bagnères de Bigorre, il faut imaginer Bagnères de Luchon, toutes ces villes avec des chemins de terre boueux. Donc les décrotteurs mettaient des planches pour traverser la rue afin de ne pas trop salir vos souliers. Et puis, si vous les salissiez, ils les nettoyaient.
Et alors, nous, ce qui nous intéresse beaucoup ici, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. Alors, vous nous avez dit dans l'assiette du pâtre, il n'y a pas grand-chose. Mais alors, dans l'assiette des touristes qui vont au terme, là, il y a des belles choses.
Alors, dans l'assiette des touristes, voilà par exemple ce qu'on pouvait manger.
On est quand ?
On est dans les années 1840 à ce moment-là. Alors c'est le prince von Puckler-Muscot qui est Argelès-Gazost. Et il a tellement bien mangé qu'il recopie la carte du dîner. Ah. Donc voilà, un consommé aux œufs, deux truites, l'une au bleu, l'autre grillée, des ortolans en caisse, un fricandeau, une caille à la crapaudine, des pommes de terre à la maître d'hôtel, trois grives rôties, lesquelles ici se nourrissent de raisins, ce qui leur donne un goût extrêmement délicat. deux pots de crème à la fleur d'orange, des gâteaux aux confitures, des noix excellentes, des pommes de Saint-Savin, du beurre très frais et du fromage délicieux du pays, le tout arrosé d'une bouteille de vin de Bordeaux fort passable.
On est en circuit court quand même sur les produits là.
Ouais, les truites.
Oui.
Sauf le
Bordeaux. Ouais, sauf le Bordeaux.
Voilà. J'ai noté qu'il était passable sur le batterier.
Mais alors, si j'ai le temps, il y a une recette de soupe extraordinaire. Alors là, on est en 1788 et c'est le minéralogiste Saint-Amand, puisqu'il faut être un scientifique pour se promener dans les Pyrénées, qui l'a décrit. Donc, c'est dans l'auberge de Héas, près de Gavarnie. Veut-on de la soupe ? Elle sera bientôt faite. La marmite part pour aller puiser l'eau du gave, car jamais on ne vit encore de cruche à Héas. La marmite revenue est suspendue sur un feu de genièvre, seule bois de chauffage dont on use ici. La marmite va bouillir, grande nouvelle, puisque la soupe est achevée. Oui, mes amis, le pain, déjà préparé dans un grand plat de bois, avec une petite boule de beurre, est inondé d'eau bouillante. Voilà le potage. Une gousse d'ail, un oignon cru, mâché par la cuisinière, puis craché sur le potage. Voilà l'assaisonnement.
Ouais.
La dernière façon du traiteur. La soupe est servie. Elle est excellente. On la mange avec des cuillères de bois qui ont 3 ou 4 pieds de diamètre.
Ouais.
Je n'ai jamais essayé, ni j'espère que je n'ai jamais goûté une telle soupe.
Oui, c'est ça, c'est ce qu'il faut espérer. Un petit peu de jazz, mon cher.
Alors, on va parler un peu de jazz. Un des meilleurs jazzmen français, c'est Guy Lafitte, qui est un Pyrénéen, puisqu'il est né à Saint-Gaudens. Et là, il a écrit un poème. Et au lieu de jouer du saxophone, je vais lui laisser raconter son poème, comme ça on a en même temps l'accent des Pyrénées, parce que c'est une voix de conteur. Nous écoutons la composition, le thème de Guy Lafitte, Charme, et la musique derrière a été composée par Pierre Boussaguet.
Une mélodie se tord suavement. Merveilleusement. Comme le tronc d'un charme, il y a toujours 20 ans, là devant moi, dans ce bois. Johnny la griffe presque tendrement, avec pudeur, mais lestement. L'écorce lisse se laisse caresser, plie, frissonne et laisse s'échapper un bel insecte d'or. Une larme ailée, je crois reconnaître. C'est une note non jouée, mais toujours espérée, rechercher, mendier. Celle d'un saxophone qui prend dans la matière du bois et du métal tout ce qu'il faut pour vivre à fond et pour aimer.
Guy Lafuite a démarré sa carrière musicale chez le pianiste montalbanais Jimmy Rena, qui au milieu de sa vie avait un club, Les Chandelles à Saint-Lary, dont on retrouvait du jazz dans les Pyrénées, côté français. Il y a aussi pas mal de festivals de jazz. Il y a celui du Comminges de Saint-Gaudens, il y a Lucin-Sauveur, il y a Foix, La Velanée. Et puis côté espagnol, il y a Marciac, bien sûr.
Et puis pas très loin, il y a Marciac. Ouais, voilà.
Côté espagnol, il y a San Sébastien et Vitoria Gasteiz. Voilà.
On bascule sur la tome des Oris, une tome de chèvres du Béarn qui a donné son nom aux petites cahutes en pierre pour protéger les bergers pendant qu'on écoute les informations. Merci La Fine Bouche à Montauban pour ce très très succulent plateau de fromage.
CFM, vos infos. CFM, CFM Radio, votre radio en Tarn-et-Garonne.
Qu'est-ce qu'on déguste la suite ? Merci Georges d'imiter le bruit du bouchon que Paul n'a pas été assez rapide pour... Hein ?
Plus vite que son ombre.
C'est ça, c'est ça. C'est un spécial Pyrénées, monsieur, dame, aujourd'hui, puisqu'on reçoit Anne Lasserre, qui a réalisé deux thèses sur les Pyrénées centrales dans la littérature française et le légendaire pyrénéen. Elle a fait plein d'autres choses aussi et actuellement est en train d'écrire un livre sur Notre-Dame de Garaison, qui est une école près de Lannemezan, une grande école catholique avec une architecture militaire, un petit peu quand même, dans laquelle notre ministre Castex a passé un moment de sa vie, mais aussi notre paysan cuisinier préféré, Patrick Duller, qui est dans le Lot, dans le Quercy blanc, et à qui on va passer un coup de fil tout à l'heure. Vous vouliez intervenir, je vous vois vouloir me corriger. J'ai dit une bêtise, Anne Lasserre.
Non,
vous aviez l'air professoral comme
non,
ça. Si ça j'ai encore dit une bêtise.
Je vous dis que vous aviez raison sur, par rapport au bâtiment. Non.
Ah, c'est
des immenses bâtiments, oui.
Hein, vous allez nous dire, puisque vous allez nous le présenter, vous avez été professeur.
Oui, pendant 8 ans.
Et vous écrivez un bouquin dessus. Donc vous allez nous en parler dans un instant. Émilie, on reprend un petit peu. Il y a des nouveaux auditeurs qui viennent d'arriver. Mmh. Et donc, tu veux un petit sourire peut-être ?
Mais je suis en train de manger ce fabuleux fromage.
Le sourire, je te tends une perche.
Ah oui, le sourire.
Oh là là. Donc elle nous a fait une chronique sur le sourire.
Oui.
Dans les Pyrénées. Ah non,
dans l'histoire de l'art des Pyrénées. Voilà.
Bon, écoute. Non mais à tout à l'heure.
À tout à l'heure alors.
Philippe.
Alors nous on va appeler Martin. Un ariégeois, une biscuiterie ariégeoise, donc ils font des biscuits. Et je présenterai avant de la
loi gourmande.
Loi gourmande, des biscuits ariégeois de Saint-Girons.
Bon Georges, si t'as encore un morceau de jazz, on sera toujours preneur. Et puis là tout de suite, c'est Paul qui va nous présenter le joli petit vin blanc qu'on est en train de finir. Tiens, regarde, hop,
voilà, hop.
Il n'y en a plus.
Vignoble Hiroulégui, tout petit vignoble. D'accord.
Autochtone.
Voilà. C'est un peu une ressemblance avec le Jurançon que l'on a goûté la semaine dernière.
Oui.
Et Hiroulégui, pendant longtemps, c'était des vins anecdotiques que tu étais contente de boire uniquement quand tu allais te balader au Pays Basque. Et là, je m'aperçois que c'est un vin. C'est sérieux quand même ce qu'on est en train de boire là.
C'est très bon. C'est...
Sur les fromages, ça va bien.
Mais écoute,
c'est plutôt blanc sur le fromage.
Moi aussi, mais on fera les deux, du coup.
Sur le dernier fromage qui nous reste à goûter, Il tombera bien.
Parce que là, en plus, là, sur celui qu'on goûte actuellement, c'est qui est notre troisième fromage pyrénéen que nous a proposé Laurent Bassineau de la Fine Bouche, on est justement au Pays Basque, puisque c'est une tome de brebis au piment d'Espelette. Voilà, il y a des poivrons rouges dedans. Et donc, avec les Roligui, on ne peut pas mieux faire.
Impeccable.
Un petit jingle pour trinquer, boire un coup, tranquille, quoi. Allez, ça, à la hâte. Ah oui.
Ah, c'est pas mal, hein.
Moi-même, non, en fait... À la vérité, moi, je suis pas fan des rajouts dans les fromages, tu sais. Des...
Quand on mettait les petites graines, les petits trucs.
Ouais.
Ça suffit à soi-même, un bon fromage, d'habitude.
En tout cas, il pique, hein, le piment d'Espelette.
Ouais, il a un peu de...
De quoi, ouais.
Un peu de répondant.
Les Hollandais qui sont spécialistes de ça, et c'est vrai que rajouter des cumin, des
trucs, ouais. Tout ça. Le gouda au cumin et tout ça.
Ouais, ouais. Ça, bon.
Non, rien de plus.
Non, si, bon. C'est pas mal.
Ils sont tous non pasteurisés, ceux-là ? Au lait cru ? Ou pas ?
Je pense que chez Bassino, c'est que du lait cru, à mon avis. Il faut lui demander, mais c'est... Je me tourne
pas forcément non. Que, mais...
J'ai un doute sur le piment d'Espelette, tu vois.
Non, moi, à mon avis... ça vient direct des Pyrénées, quand même. Hein, donc, après, les Basques, tu sais jamais, quoi.
Les Basques ?
C'est quand même des Basques, quoi. Faut... Les
L'Ariégeois est plus tranquille, il est robuste, il est un peu rustre, mais il est peinard.
Bon, et le Pyrénéen, enfin celui de chez vous, là, le Bernet aussi.
Bernet,
il côtoie le Basque. Alors.
Il ne peut pas se voir.
Les Pyrénéens et les Bernets, déjà, ça ne se
côtoie pas.
Non, ça se côtoie.
Oui, enfin, je veux dire, il y a plein d'histoires qui courent l'un sur l'autre.
C'est comme ici,
et Bernet Basque aussi.
L'histoire donc de Sainte-Anne, là, pas Sainte-Anne, comment ça s'appelle ?
Sainte-Anne, c'est madame.
Notre-Dame de Garaison. Donc Notre-Dame, oui. Parce que j'ai vu aussi dans votre ouvrage sur les légendes qu'il y a Notre-Dame de Garaison, parce qu'il y a eu une apparition, encore une, de la Vierge. Et, non mais moi je croyais qu'il y avait eu la Vierge qui était apparue qu'à Lourdes, mais en fait la Vierge elle est apparue partout où tu vois planter une
partout,
petite...
Partout il y a des champignons hallucinogènes.
C'est ça. Ah oui, peut-être les psilocybines.
Oui, le fameux psilocybine ariégeois.
Pas forcément là où partout il y a des croix. Hein.
Non mais partout il y a des monuments, des petites chapelles enfin, quoi.
Oui. Mais les Pyrénées, effectivement, ont un culte marial très très important. Mais Bernadette Soubirous, les apparitions datent de 1858, alors que la jeune Anglaise de Sagazan est apparue en 1515. Et c'est à partir de là qu'il va y avoir une chapelle. Et petit à petit, des chapelains qui vont s'installer et qui vont ensuite enseigner, parce qu'on forme des chorales, mais on enseigne aux jeunes enfants de chœur et aux jeunes choristes aussi un minimum de culture. Donc il va y avoir un premier établissement scolaire.
Autour du champ.
C'est le point de départ.
D'accord.
Après, ça va être un véritable établissement scolaire, parce que Garaison, il faut imaginer que c'est perdu en pleine campagne dans les Landes. Il y a la Lande du Bouc à côté, c'est un lieu sauvage où on peut rencontrer le diable. Enfin, c'est vraiment un lieu perdu. Alors au départ, bon, il va y avoir les pèlerinages, puis l'établissement scolaire, puis il y a la Révolution... Et tout est en quelque sorte éclate. Ils sont obligés de fuir. Et de nouveau, vers dans les années 1840, l'établissement scolaire ouvre de nouveau, jusque dans les années 1900, où il y a la séparation de l'Église et de l'État. Et en 1923, l'établissement scolaire est à vendre et il va être racheté par d'anciens élèves. Et c'est pour ça que sera fêté le centenaire en 2023. Raison.
Mais le fait que ce soit un espèce de grand monument assez militaire, comme ça on dirait une caserne militaire, ce truc, quand même, c'est dû à quoi, ça ?
Alors, je pense que c'est le fait... Ça a été construit petit à petit, mais il fallait recevoir les pèlerins. Mmh. Les loger, il y avait les pénitents blancs ou gris qui venaient de Toulouse, par exemple, qui avaient marché pendant 8 jours et qui allaient passer parfois 2-3 jours à Garaison. Donc, au départ, il a fallu loger tous ces pèlerins qui venaient de loin. Et après, quand c'est devenu établissement scolaire, eh bien, on a agrandi petit à petit. Bon, moi, personnellement, quand j'ai enseigné à Garaison, c'était au sommet, en quelque sorte, de sa forme. Il y avait quand même 1200 élèves, dont la moitié étaient pensionnaires. Ou...
D'accord.
Et tu nous parles le lycée Michelet, ici, on est à peu près sur les mêmes types de constructions.
Ouais, hein, c'est oui, les établissements scolaires. Hein. Oui. Voilà,
d'ailleurs...
Oui.
Et on est sur un établissement très, très catholique ou...
Je pense que ça l'a été et ça l'est beaucoup moins maintenant. Maintenant, la plupart des enseignants sont laïcs. Le directeur est un laïc aussi. Alors, il peut y avoir un enseignement chrétien par derrière, mais autrement, ça ne se différencie pas des autres établissements, oui, d'autant plus que c'est sous contrat d'association.
Oui, ça fait pas collège jésuite ou...
Ah non.
On a été frappé, Georges vient de le relever, par le taux de réussite.
Oui, au bac.
100%.
Oui, voilà.
Ou à...
Là, au Notre-Dame de Garaison.
Ouais.
Ah. Oui, c'est...
Alors, est-ce que c'est très élitiste du coup,
Garaison, ou alors il n'y a que des Cambridge.
Non, oui, je pense aussi que le taux de réussite cette année a été assez énorme et qu'il doit friser les 98%.
Ah oui, c'est conjoncturel d'après vous.
Voilà. D'accord. Donc je pense que expliquer cela aussi.
Alors, vous êtes en train d'écrire un ouvrage dessus et vers la fin de votre ouvrage, vous consacrez quelques pages aux illustres personnages qui sont passés par Garaison. Donc il y a Jean Castex.
Oui. Jean Castex, qui a été élève, je crois, entre 79 et 82, qui a fait donc seconde, première et terminale.
D'accord.
La seconde, première et terminale. Voilà.
Bon, donc vous lui consacrez quelques paragraphes.
Oui, je l'évoque, puisque en tant qu'ancien élève.
Et puis il y a Patrick Duller.
Et il y a Patrick Duller, que j'ai découvert grâce à un autre ancien élève qui avait vu un article dans Le Monde qui parlait d'un grand chef qui avait été pensionnaire dans un grand établissement et qui avait un peu mal mangé. Donc, cette personne que je ne connais pas, avec qui je corresponds, avait pensé à Garaison et avait envoyé un message à Patrick Duller qui lui avait dit oui, c'est bien Garaison. Voilà. Donc je me suis dit, il faut qu'il soit dans le livre.
Et donc vous consacrez quelques paragraphes aussi donc à Patrick Duller du domaine de Saint-Géry. On est dans le, je sais pas si on, oui, on est dans le Lot,
dans le Lot.
Entre Montaigu de Quercy et Lozère et Cahors.
Et c'est au sud de Cahors, hein, je pense.
Ben, il va nous oui. le dire. Et puis, de toute manière, pour y aller là-bas, il vaut mieux y aller en hélicoptère. Il y a un héliport chez Patrick Duller, notre cuisinier paysan préféré. Sur son site internet du domaine de Saint-Géry, les slogans, c'est le luxe de la simplicité, le jambon haute couture. On a eu le plaisir et la chance de le goûter lorsqu'il était champion du monde il y a quelques années. Il fait aussi de la truffe. Tout ce qu'il met dans votre assiette, Patrick Duller, il le fabrique lui-même, en fait. Hein. Il le fait pousser. Et donc, est-ce que c'est par réaction à la cantine de Garaison qu'il a donné dans le goût ? Eh bien, on va pouvoir lui poser la question. Patrick Duller, bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir, comment allez-vous ?
Très bien. Merci de m'inviter.
Eh ben avec plaisir, vous nous avez laissé un très très bon souvenir dans cette émission, donc on est ravis de revenir vers vous par ce biais de cette école-là de Garaison. Un mot sur cette école, vous vous en rappelez ? Vous y étiez dans quelle classe, vous ?
J'ai fait 7 années à Garaison, je suis parti en 3e. Moi, je suis arrivé très petit, j'avais 8 ans. Voilà.
Et donc la cantine, elle était comment ?
Écoutez, on avait des blouses, ça s'appelait des toges grises, et puis on était obligé de finir les plats à l'époque. Donc on avait une poche en plastique, et puis discrètement, on mettait ça dans la poche en plastique, on avait vidé au fond de la cour quand c'était mauvais.
Et est-ce que c'est là que vous avez pris conscience que vous deviendriez cuisinier?
Non, ça m'a. Je ne sais pas si c'est ça qu'il a fait, mais bon. mes parents me disaient toujours, il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Bon, je ne les ai pas écoutés, en fait.
qu'est-ce qui vous reste de vos années d'études à Notre-Dame de Garaison?
J'ai quand même quelques souvenirs. J'étais pas un enfant facile. Hein. Donc, à Garaison, j'ai fait à peu près toutes les conneries qu'on pouvait faire. Hein, voilà.
Comme un certain nombre, je pense.
Voilà. J'ai appris la mobilette. J'avais 10 ans. On avait la mobilette du palefrenier. On a fait la mobilette. On a fumé dans les toilettes, dans les bottes de paille, enfin tout ce qui aurait dû pas marcher. Puis en fait, on a survécu.
Bon, et vous êtes échappé après la troisième, c'est ça?
Bon, oui, c'est pas échappé, c'est vous ne voulez plus trop de moi. Voilà.
Ah, ben tu vois, Paul. On parlait des personnalités qui ont été renvoyées. On vous a renvoyé de Garaison.
Voilà.
Bon.
Régulièrement, ils me renvoyaient une semaine et puis après, bon, ils ont fini par me renvoyer. un peu trop de bêtises. Ouais. Mm-hmm. Non, mais je me souviens, j'ai appris à faire du cheval là-bas.
Du rugby?
Du rugby, bien sûr. Et donc, je me souviens des matchs prof-élève. Le jeudi après-midi, on allait au ski à Saint-Lary, à Peyresourde, voilà, en bus. On vomissait dans le bus, mais on faisait du ski. Voilà. avec des vieux skis. Enfin bon, j'ai appris à skier. Il y avait toute... une école, on faisait du sport, on se promenait, enfin, voilà. Mais c'était rustique, voilà, on va dire.
Bon, vous n'étiez pas dans la même promo que Castex?
Non, c'est un gamin. Moi, j'étais de 67 à 73, 74.
Ah oui,
Jean Castex est arrivé en 79.
Ah voilà. Oui, c'est un gamin, effectivement. Bon, Patrick Duller, le domaine de Saint-Géry, c'est toujours le même concept. La famille s'est agrandie, si j'ai bien vu aujourd'hui, parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, les enfants étaient peut-être trop petits pour pouvoir participer à l'entreprise familiale. Là, je vois que la famille Duller s'est déployée autour du domaine de Saint-Géry.
Bah écoutez, c'est que les enfants doivent trouver que c'est pas trop mal, donc ils s'y intéressent. Voilà. Ils aiment manger aussi. Après, tous nos enfants sont pas directement avec nous, hein, mais il y en a un qui est au Canada, donc, vous voyez, mais c'est lui qui s'occupe de la communication, on va dire.
D'accord.
Et puis on en a un qui fait des études de viticulture œnologie, puis qui est cuisinier aussi, qui cuisine avec moi quand il est là. Voilà. Et puis la petite dernière qui a 16 ans, fait l'école à la maison, donc chez nous, elle n'est pas à Garaison, elle.
Ah oui, mais c'est peut-être ça aussi.
La cantine de Garaison, mais...
Le fait de faire... Vous avez toujours fait l'école à vos enfants, c'est peut-être ça aussi qui vous reste de Garaison, non?
Non, j'ai pas... Vous savez, après Garaison, j'étais un peu au lycée à Lectour, et puis après, j'étais dans une autre école privée, qui est l'école de Sorèze dans le Tarn, voilà. Donc c'était un peu comme Garaison, mais plus petit. Ouais. Bon, j'ai eu des bons souvenirs aussi. Donc non, c'est pas par rapport à Garaison qu'ils ont fait l'école à la maison.
Mais la relève est assurée, donc.
Oui, la relève est assurée, ça
voilà,
continue.
La relève j'espère qu'elle est assurée.
D'ailleurs, Patrick Duller, tout ce qu'on mange chez vous au domaine de Saint-Géry vient de la propriété. C'est vous qui faites tout pousser, le blé, le potager, absolument tout. Les truffes aussi, vous avez mis en place des truffières. C'est vous qui faites les salaisons, le jambon, dont vous avez été champion du monde de jambon.
En 2014.
Vous ferez de la vigne un jour? Est-ce que vous ferez du vin?
Alors, on a planté de la vigne, on a fait les premiers essais en 2008, de quelques pieds comme ça pour voir un peu ce que ça donnait. Et puis depuis 2016, on a planté vraiment un peu plus de vin, de pieds de vigne. On a 12 500 pieds. Parce qu'on plante réparti sur 12 hectares au milieu des truffières et du blé. On fait de la complantation, un peu comme on faisait autrefois. Parce qu'on pense que pour... lutter contre les maladies, le mieux c'est de pas en avoir, et pour pas en avoir, il vaut mieux que ce soit diversifié. Voilà. Parce que la monoculture amène la maladie et le déséquilibre souvent. Et donc on a fait, cette année ça a un peu gelé, et puis un peu bidou, un peu tout. Donc on a fait une toute petite récolte, mais 2022, on devrait avoir la première récolte qui serait pas mal. Voilà.
Donc va se rajouter sur votre table votre cuvée, quoi.
Voilà. Et le vin, c'est de la fermentation, comme le jambon, comme le pain qu'on fait, comme le fromage. Voilà. Et donc les produits fermentés me plaisent beaucoup parce que quand on fait fermenter un produit, c'est un nouveau goût. Et un jambon, ça n'a pas le goût d'une cuisse de cochon, ça a le goût de jambon, comme un saucisson. Comme le vin, ça n'a pas le goût de jus de raisin, en fait. Le fromage, ça n'a pas le goût de lait, ça a le goût du fromage. Et donc la fermentation, non seulement elle amène des goûts extraordinaires, et puis en plus, elle amène des éléments nutritifs qu'on ne retrouve pas dans l'aliment de base. Voilà. Les polyphénols qu'on retrouve dans le vin, on ne les a pas directement dans le jus de raisin.
Qu'est-ce que vous avez planté comme cépage?
Alors, c'est tout en complantation. On a en tout 30 cépages, 28 exactement. On a 13 blancs et 15 rouges. Voilà. Et donc, il y a du Malbec, puisqu'on est à côté de Cahors. On n'est pas dans l'appellation Cahors, hein. On est en vin de France. Hein. Et on a du Malbec, un peu de Syrah, un peu de Bourvèdre, pratiquement des cépages français et quelques cépages étrangers. On a du Macabeu, mais qu'on trouve aussi en France, mais qui est un cépage espagnol pour le blanc, voilà.
Du chenin, j'imagine, des choses comme ça, du Viognier.
Du chenin, oui, il y a un peu de chenin. On a planté d'abord, le premier blanc qu'on a planté, en fait, en 2016, c'est du Savagnin, le cépage d'Alsace, du Jura, avec lequel on fait le vin jaune. Et des vins un peu oxydatifs, et ça, on a été les premiers à en planter. Maintenant, il y a quelques vignerons qui sont mis en planter dans le coin.
Je me demande toujours à quoi ressemble une journée de Patrick Duller, hein, parce que vous devez vous lever à très 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 tôt et vous coucher assez tard quand même, Patrick, pour pouvoir faire tout ce que vous faites sur votre domaine avant de passer le tablier de cuisinier.
Oui, bon, on a un gros avantage, c'est qu'on ne perd pas de temps dans les bouchons. Donc on est sur place, voilà, donc on optimise un petit peu, hein. Et puis bon, on ne regarde pas trop la télé non plus. Hein.
Bon, et le vin, il s'appellera comment? Est-ce qu'on pourra on ne pourra le boire qu'en venant manger à la table du domaine de Saint-Géry? Ou bien est-ce qu'on peut imaginer un jour trouver chez son caviste du vin de Saint-Géry?
Je l'espère. Je l'espère qu'on arrivera à faire du vin en quantité suffisante et de qualité pour qu'on puisse le commercialiser.
Bio et nature?
Oui, bien sûr. Oui. Ben bio, c'est le minimum, syndical, je dirais. Il ne faut pas faire moins que bio. Mais au-delà du bio, ce qui est intéressant dans l'agriculture, ce que nous on recherche, c'est de ne pas être dans le principe de la lutte, quoi. Voilà.
Merci beaucoup Patrick Duller d'avoir été avec nous. Le domaine de Saint-Géry, bon ben voilà, c'est il y a un site internet qui est très bien fait. Il y a encore, j'ai regardé avec plaisir encore l'autre jour le documentaire que vous avez consacré le magazine Des Racines et des Ailes, où vous êtes, on décrit l'intégralité de votre travail. Je crois que ça dure presque 30 minutes, quoi. Donc voilà, c'est un documentaire que j'invite nos auditeurs aussi à regarder pour mieux comprendre votre travail. Merci beaucoup, Patrick Duller, d'avoir été avec nous. Au plaisir.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Qu'est-ce que tu dis ?
Je suis sur le site internet de...
De Patrick Duller ?
Ouais, c'est
du domaine de Saint-Géry. Ah bah oui, oui. On y va en hélicoptère. On y va en hélicoptère chez Patrick Duller.
Quoi?
C'est ça. Mais non, mais c'est loin. C'est vrai que il est au bout du monde. Hein. Puis c'est des paysages merveilleux là.
Ah
tu
oui.
vois le Quercy blanc. C'est pas les Pyrénées, non. Mais c'est un autre paysage.
Mais,
quoi.
Mais quand on voit le domaine, c'est merveilleux là. Ouais. Tous ces bosquets de chênes, ces étangs. C'est presque un hameau, finalement, le domaine. Il y a plusieurs maisons.
Et donc, effectivement, il fait chambre d'hôte, donc on peut évidemment aller là-bas. Un petit coup de sourire ou pas?
Un petit coup de sourire, si tu veux.
Ouais.
Alors, j'étais partie pour regarder les sourires dans les œuvres des artistes pyrénéens, et puis c'était quand même très restreint. Donc, j'ai élargi à toute l'histoire de l'art. Tu vois comment je me rattrape aux branches.
Capillotracté, on avait dit. Hein.
Complètement. Donc, finalement, si vous regardez les sourires dans les peintures dans les peintures de musée notamment. Alors c'est pas la fiesta, c'est pas la fiesta du sourire. Hein. Les personnages d'étoiles font souvent un petit peu la tête, ou au mieux une attitude plutôt neutre. Il n'y a pas d'effusion de joie, hormis quand certains sont éméchés, n'est-ce pas ? Alors pourquoi ce manque de sourire dans toute l'histoire de l'art ? Alors je mens un petit peu, on en trouve.
La Joconde.
Attends, on n'est pas là, on est à l'Antiquité, je vais te remonter tout ça historiquement.
Mmh. Hein ? C'est pas le fromage.
Donc dans l'Antiquité, il y a entre quelques petits sourires. Mais vraiment, les gens font la gueule à partir du 5e siècle. Alors là, c'est le début du Moyen-Âge, avec l'avènement du christianisme. Hein, les manifestations heureuses s'estompent totalement. Alors pourquoi ? Eh bien évidemment, c'est de la faute d'Ève. Ève avec ses lèvres qui a croqué le fruit défendu, le plaisir de chair. Le fruit défendu et le sourire, c'est un petit peu montrer l'orifice de la décadence. Seules les saintes, les anges, les madones pouvaient afficher un large sourire parce que eux et elles étaient totalement épargnés par le péché. Donc à partir du 15e siècle, là, c'est la Renaissance, donc ouh, on réveille les émotions. Et puis, il faut dire que les commandes sont des commandes de princes. Les Médicis, notamment. Donc là, on affiche des doux sourires qui peuvent séduire et aussi servir la politique. Les regards deviennent expressifs. Regardez la Joconde, notamment, avec un léger sourire. Et les sourires généreux, les éclats de rire, sont réservés aux scènes de genre des petites gens. Par exemple, dans les tavernes. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a un autre problème. Le sourire montre les dents. Et à cette époque-là, autant vous dire que l'hygiène dentaire laissait quelque peu à désirer. On était plus près de Jacouille que de Georges Clooney, vous voyez. Non, plus on avance dans le temps, plus on sourit. Au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, le sentiment de liberté s'installe et les sourires apparaissent. On a des démonstrations de joie. Cela continuera au XVIIIe et puis au XIXe. Et là, avec l'apothéose de l'impressionnisme, on montre des bals, des déjeuners sur l'herbe, souvent qui finissent par des parties carrées, il faut le dire, hein, des scènes de vie avec des couleurs vives qui laissent éclater les sourires. Plus tard, avec le pop art de Andy Warhol, c'est le retour du sourire avec, souvenez-vous, la généreuse bouche pulpeuse de Marilyn Monroe. Alors, c'est plutôt un sourire de façade qui critique la société de consommation. Et aujourd'hui, quand on voit des sourires dans l'histoire de l'art, dans les peintures contemporaines, c'est plutôt un sourire affiché cynique ou ironique. Et de nos jours, vraiment, ça traduit plutôt un message critique de la société contemporaine.
Est-ce que tu appelles partie carrée ? La suite de qu'est-ce qu'on déguste dans
Simon quelques... ne veille et sourit pas.
Elle a un léger sourire.
Léger sourire.
Ouais. La Simone Veil qui a été installée devant le lycée du même nom à Grisolles.
Non, à Verdun.
À Verdun. Réalisation.
Émilie
Prochet dans la Costa. Allez, à tout de suite.
CFM. Vos infos. CFM.
CFM Radio.
CFM Radio.
Qu'est-ce qu'on déguste la suite ? Alors on est bien là, on est sur les Pyrénées avec un plateau de fromage pyrénéen qui nous fait voyager. On en est au Massadel, un fromage de vache d'Ariège fabriqué à Massat.
Massat, magnifique village. Voilà. Je vous invite à visiter Massat.
Massat,
c'est au creux de les montagnes, toutes les montagnes autour, c'est superbe.
C'est pas très loin de Rabat les Trois Seigneurs, ou les Trois Pins.
Tarascon sur Ariège, tu tournes à droite.
Oui, les tables de Massat.
Voilà.
Là, c'est vraiment la signature.
Ah ouais, Massat. Il y a des pélutes. C'est un village de pélutes, justement.
Pélutes, ça doit être un mot ariégeois, non ? Ou un peu, non ? Ça doit venir de par là, non ?
D'ailleurs, à ce propos, je vous invite à voir le dernier spectacle d'Olivier de Robert, un ariégeois, un conteur ariégeois, qui est passé extraordinaire, qui est passé récemment au festival Alors Raconte, qui raconte l'histoire de naître ici. Voilà, comment on fait pour. À partir de quand, à partir de quel moment, on peut se dire d'ici ? Voilà, c'est tout un débat. Et donc, il raconte son intégration dans le pays ariégeois. Non, il n'y est pas nu. Tout le spectacle est sur ça. Donc, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est C'est d'une drôlerie.
Comment il s'appelle?
Olivier de Robert.
Il est extraordinaire.
Olivier de Robert.
C'est un des plus grands conteurs français.
Nous prenons note et nous restons en Ariège d'ailleurs, puisque en Ariège, nous allons aller rencontrer. Qui c'est qu'on va aller rencontrer?
On va aller rencontrer la Loi Gourmande ariégeoise, qui est une petite biscuiterie.
Oh, tu fais bien Loi, Paul. Refais.
On se croirait un extrait de, du bonheur dans le pré.
Ouais, c'est ça. On va pas continuer les qualificatifs et les noms d'oiseaux parce que. Voilà, voilà. Donc, Ariège, terre courage, indique le panneau à l'entrée du département. Donc, au pays des montagnes, la vie est rude, la terre est basse, les hivers longs et rigoureux. Mais sur ces terres pyrénéennes, aussi sauvages qu'authentiques, de jeunes entrepreneurs audacieux endurent ces conditions de vie extrêmes et n'hésitent pas à s'installer. Et oui. À l'instar de Loi Gourmande, cette jeune biscuiterie de Saint-Girons, représentée par Martin, un fier gaillard à l'œil pétillant et à la gouaille généreuse. Loi Gourmande, c'est une gamme de biscuits robustes et roboratifs. Le bon biscuit du montagnard, quoi. Donc tant que Croquin était prêt à l'escalader en courant sur les mains, le pic de Rulle ou la dent d'Orlou. T'es calé pour... D'Orlu, merci, merci Georges. T'es calé pour arpenter le glacier d'Arcouzan en string. Bref, une gamme de biscuits sucrés-salés, une équipe de jeunes gourmands organisée en SCOP. La SCOP, les Ateliers de la Liberté. C'est une belle histoire en terre ariégeoise que va nous présenter Martin. Salut Martin.
Bonjour à vous. Merci.
Salut Martin, merci d'être là.
Ben, merci d'avoir pensé à nous.
Ah ben, un ariégeois...
Pas de la facture.
Alors, Loi Gourmande, ça démarre d'où cette histoire?
Cette histoire, ça démarre parce que je suis descendu pour le mariage de copains en Ariège et au final, je suis jamais reparti. Ces copains, ils étaient gérants d'un fournil en montagne, en bio, qui est en bio depuis 30 ans, qui a été installé il y a une trentaine d'années. Et ils étaient gérants de ce fournil et ils m'ont embauché au bout de quelques mois parce qu'ils avaient besoin d'un coup de main et que moi, j'avais envie de faire autre chose de ma vie. J'étais dans le social, de faire un truc de mes mains. Et donc, au fur et à mesure, j'ai lancé une gamme de biscuits. Et ses copains, ils ont quitté la gérance de ce fournil. Donc, j'ai repris ma gamme de biscuits et j'ai lancé Loi Gourmande, la biscuiterie Loi Gourmande. Et de fil en aiguille, à faire que du biscuit vrac. On était, dans l'ère du temps et dans l'ère du temps, ça fait que ça s'est développé. Donc, on a embauché une personne, deux personnes, trois personnes. Et puis, en fil en aiguille, on avait envie d'avoir nos propres bâtiments, d'avoir une vraie, pâtisserie, biscuiterie, traiteur, snacking, tout en bio à Saint-Girons, de promouvoir la transition alimentaire. Et donc, moi, j'ai dit, OK, je veux bien continuer. Par contre, on s'associe en SCOP et on devient tous associés salariés de l'entreprise. Comme ça, on est tous maîtres de notre outil de travail et il n'y a plus de patron. On prend les décisions ensemble et voilà, une chouette aventure.
Magnifique, une société sans patron.
Et en fait, c'est vraiment... Moi, ça me portait, ce que je disais, je viens du milieu associatif, social. J'avais envie de promouvoir une autre forme d'économie, une autre forme d'entrepreneuriat. La société coopérative ouvrière de production m'a paru comme l'outil le plus adapté et le plus en adéquation avec les valeurs qu'on portait aussi au sein de l'entreprise.
Ça se fait de plus en plus un peu ça dans il me semble qu'il y a le Bull Bill par exemple dans le coin, tu m'arrêtes si je me trompe.
Oui, qui est aussi organisé en coopérative, alors pas en SCOP réellement, mais en coopérative, très très participatif.
Paysan aussi, boulanger de Castelsagra dans le Tarn-et-Garonne.
Exact, ouais. Oui, il y a pas mal de SCOP en Occitanie. Ouais.
Comment se fait la distribution de ces gâteaux là?
Eh bien, nous, on vend à 80%, en magasin spécialisé, soit en direct, soit par des groupements d'achat ou des associations ou via aussi un réseau qui vient de se monter sur Internet qui s'appelle Webuck, qui est à destination des produits vrac. Et aussi, beaucoup comme ça.
Mais comment tu fais pour garder un produit qui a du goût, puisque dans ton développement, pardon, je te tutoie, excuse-moi, c'est le vin, c'est l'Iruligui. Donc comment tu fais pour garder le goût, le côté artisanal, alors qu'en fait, si j'ai bien compris, il faut quand même se développer et peut-être arriver à un truc genre un industriel, non?
Ouais, en fait, justement, c'est le développement qu'on a choisi de pas faire. Nous, on s'est posé la question, soit à un moment donné, effectivement, on fait du volume, on installe des machines, on crée une vraie industrie, entre guillemets, du biscuit, ou soit, au contraire, on continue ce développement de manière artisanale à faire tous nos biscuits, entre guillemets, comme chez vous, hein, avec, bon, nous on a un gros batteur, on a un laminoir pour mettre la pâte pour mettre la pâte au niveau de d'abaisse qu'on veut, mais au final ça change pas grand chose, c'est juste les machines qui sont un petit peu hautes, mais on fait tout à la main, tous les biscuits sont faits à la main, donc voilà, et on a fait ce choix là de garder ça et de développer d'autres typologies de gamme de produits et de faire plus de ventes directes. Notre but maintenant en ouvrant ce salon de thé pâtisserie traiteur, c'est d'arriver à faire plus de ventes directes et de dépendre moins du biscuit.
Et vous êtes voilà. Où alors? C'est où le salon de thé là?
Le qu'on va ouvrir en avril, mi-avril, c'est au 40 boulevard Frédéric Arnault, 09-200 Saint-Giron. Voilà, en plein centre de Saint-Giron, on va avoir 780 mètres carrés pour la SCOP. Et on garde 500 mètres carrés un peu pour, à terme, on a créé une association qui s'appelle ORIS et qui va développer ce qu'on appelle un tiers-lieu, donc à la fois des espaces de bureaux partagés et des bureaux officiers fixes, principalement, je dirais, pour des associations culturelles. Et après, voilà, créer tout un écosystème. On a aussi une cuisine... On aura une cuisine d'application pour pouvoir faire des formations sur des thématiques qui nous tiennent à cœur comme consommer moins de viande, plus de légumineuses qui peuvent être produites ici et aussi cet atelier il permettra de pouvoir le louer aussi par exemple pour des gens qui ont envie de faire de la transformation ou quoi que ce soit.
Et il faut dire que je trouve aussi sur le marché de Saint-Giron.
Effectivement,
tous les samedis. Effectivement, le mythique marché de Saint-Giron.
Merci Philippe, on est sur le mythique marché de Saint-Giron tous les samedis matins à côté du grand café de l'Union et c'est vrai qu'on voit que depuis 2 ans il y a un vrai engouement pour la vente directe, on a de plus en plus de clients, on n'arrive pas forcément à répondre à toutes les demandes en termes de produits frais qu'on a déjà développés, comme la viennoiserie ou toute cette typologie de produits. Mais en tout cas, c'est un marché qui est hyper important pour nous. Voilà, on a vraiment envie de garder ce lien.
Il me tarde que ça ouvre. Ça s'appellera Loi Gourmande au centre-ville
là. Ah non, la SCOP, on l'a renommée aux Ateliers de la Liberté et la biscuiterie Loi Gourmande est devenue une marque au sein des Ateliers de la Liberté.
D'accord, les ateliers de la liberté, ça c'est très ariégeois quand même, hein. Très très ariégeois.
nous on a fait un petit jeu en fait pour déterminer, pour trouver un nom pour notre SCOP, et les deux mots qui sont arrivés principalement c'est atelier et liberté. Et nous, ça nous a plu parce que pour deux raisons. Atelier de la Liberté, déjà, c'est une gravure qui symbolise la liberté de la presse. Donc déjà, ça nous tenait à cœur aussi de marquer ça. Et puis, deuxièmement aussi, c'est un fort ancrage local parce que les chemins de la liberté, c'était les chemins qu'empruntaient à la fois les républicains espagnols qui fuyaient la guerre d'Espagne et tous ceux qui ont fui les persécutions de l'Allemagne nazie. Et donc... Et donc voilà, c'était aussi montrer notre volonté d'avoir un développement d'un développement local et aussi effectivement un peu plus national, je dirais plutôt régional sur notre activité.
Dac, merci beaucoup de nous avoir présenté ce beau projet.
Merci à vous.
Non, mais tu vois, parce que...
Vous invitez tous à faire le marché de Saint-Girons le samedi matin.
En Ariège, au marché de Saint-Girons... ouais, non, alors... par contre, si au marché de Saint-Girons, le samedi matin, ils arrêtaient de mettre les prix comme si tout le monde était des touristes américains, ça serait quand même pas mal. Non, c'est un des marchés... C'est un des marchés les plus chers qui est... Attends, moi, j'en fais beaucoup des marchés, et c'est un des marchés les plus chers, le marché de Saint-Girons, sans déconner.
Mais parce que vous n'allez pas directement au producteur, vous allez au revendeur.
Mais c'est pas ça, c'est qu'il ressemble à un Toulousain. Si tu veux, quand il arrive. Alors, il s'est fait un pégé comme un Toulousain, si tu veux que je te dise.
L'Ariégeois a oublié d'être... Ah bon, allez.
Merci Martin, merci beaucoup.
Merci beaucoup Martin, au plaisir. Et on se fera connaître, on viendra, on se fera connaître.
Avec grand plaisir, à bientôt.
Salut.
Au revoir.
Non, vous êtes allé déjà au marché de Saint-Girons jamais? Vous avez jamais fait le marché de Saint-Girons?
Mais
non. Ah, mais alors ça manque à votre vie. Non, non, ah, si, oui, il est fameux.
Particulièrement
pour quel jour?
Non, il est fameux. Ah ouais, le samedi. Demain. Le samedi matin, marché de Saint-Girons, non, c'est quelque chose. Et puis alors là, au niveau des produits, non, c'est quand même. Voilà.
Là, c'est pas mal, ouais.
Ouais. Voilà, ils ont juste oublié de pas oublier de monter les prix, quoi. Il y a celui de Montbrun-Bocage aussi qui est pas
oui,
mal.
Qui est pas mal, ouais. Plus modeste.
Le samedi matin aussi, il est très chouette. Oui. D'Aspet.
Aspet, ah ouais. Mm.
Au-dessus de Saint-Gaudens, Aspet.
Aspet.
Ah oui, Aspet. On en est où dans cette émission? Je sais plus. Un petit coup de jazz, comme ça on peut se manger un morceau de fromage.
Tout à l'heure, nous avons écouté la voix rocailleuse de Guy Lafitte. Le paysan, puisqu'à un moment donné, il a élevé des moutons du sud-ouest, du bas des Pyrénées, puisqu'il y a du Comminges. Et là, nous écoutons un enregistrement qui a été fait avec Pierre Boussaguet à la gare de Bordeaux, à côté de Montauban, dans le lieu que tenait Joël Mouriot. Et le titre s'appelle The Fox.
The Fox, le renard.
Et Georges, en mouton, on fait la découverte ou pas?
On y arrive, attends, après...
Non, mais je pensais qu'il ne fallait pas l'oublier, parce que ça pouvait pas.
Oui, on peut le faire pendant le...
On va s'attaquer...
Faut que tu finis ton...
On va s'attaquer au bizarre, après. Ouais.
Vous avez peut-être reconnu ce thème qui a été utilisé dans la publicité pour les collants DIM, mais qui était une version jazz de Guy Lafitte, Pierre Boulle-Saguet en duo, en enregistrement public à la fameuse gare de Bordeaux qui malheureusement n'existe plus en lieu de culture et de...
En lieu de culture, oui, toujours, puisque c'est un lieu de mémoire de pour mémoire. Les républicains espagnols aujourd'hui, ouais. Quand même.
Et c'est plus une salle de spectacle.
Mais c'est plus une salle de spectacle.
Il y avait de très bons concerts de
Comment jazz. Il va, Guy Lafitte?
Bon, il est décédé depuis 1998.
Bien, ouais. Paix à son âme. Hommage.
Trois jours avant son concert qui était prévu au Festival de Jazz de Montauban.
Allez, un dernier petit retour vers Anne Lasserre-Vergne qui a quand même, je vous rappelle, mais non, mais c'est de l'humour noir un peu, pardon.
C'est noir, c'est noir.
Non, hein. Mais nous... dans tous vos travaux sur les Pyrénées à Anne Lasserre, qu'est-ce qui vous a... Il y a bien quelque chose qui a dû vous surprendre à un moment. Parce que même si on est un peu... Pas un peu, d'ailleurs, comme vous, on est une savante, et donc on s'intéresse même très techniquement, des fois, aux choses, il faut... Voilà. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a étonné, qui vous a... Vous voyez ?
Oui, alors, ce qui m'a étonné... Bon, il faut dire que j'ai goûté les deux vins, maintenant. Bon, alors, ce qui m'a étonné, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, la façon dont on est marqué par l'époque dans laquelle on vit. Cette façon que l'on a de regarder un paysage à travers l'époque dans laquelle on vit. Et je pense que nous sommes tout aussi marqués. Nous avons transformé les Pyrénées, à mon avis, en grande aire de jeu pour le moment.
Ouais.
Et nous les voyons comme ceci. Nous ne les voyons plus réellement pour ce qu'elles sont, pour ces montagnes. Alors ça, cela m'a frappée. Et ce qui m'a frappée aussi, mais c'est... Moi, depuis longtemps, je rêverais d'une grande maison, à un bout ou l'autre des Pyrénées, où toutes les recherches sur les Pyrénées seraient, comment on peut dire, réunies. Ce qui ne se fait pas. Et on continue, par exemple, à faire des ouvrages où on parle que des Pyrénées françaises et ou alors que des Pyrénées espagnoles. Et ça, moi, je trouve ça ahurissant, par exemple. Alors que tous ces grands pyrénéistes depuis le 19e siècle, obligatoirement, ils passent d'un côté et de l'autre. Et des pyrénéistes français ont un sommet. Il y a le Pic Gorier, il est dans le massif de Piedrafita, par exemple.
Quand on traverse les Pyrénées à pied ou en randonnée, bon, la frontière est là, elle n'est pas là, on ne sait pas vraiment
mais
si
oui,
on est en France, en Espagne. Bon.
Voilà, ce n'est pas un problème. Et d'ailleurs, les Espagnols me semblent beaucoup plus ouverts, parlent davantage des Pyrénées françaises que nous ne parlons souvent des Pyrénées espagnoles.
Elles n'ont pas du tout la même physionomie quand même, les Pyrénées françaises non. Et les Pyrénées espagnoles. Les Pyrénées françaises, c'est un mur, et les Pyrénées espagnoles, c'est une succession de montagnes, de piémonts comme ça, sur énormément de kilomètres, c'est très long, très loin. Quoi.
Voilà.
Puis les Français connaissent un peu les Pyrénées françaises, mais ils ne passent pas de l'autre côté.
Oui.
Alors que l'autre côté est magnifique, on a l'impression, on fait 300 kilomètres, on a l'impression d'être au Sahara, pas au Sahara, au Maroc, c'est complètement différent. Et il y a toute la culture des musulmans qui ont...
Morts.
Et il y a beaucoup de villages morts, il y a Alcézar, il y a beaucoup de villages morts qui sont dans le nord des Pyrénées espagnoles.
Et il y a aussi ce massif du Vignemale qu'Henri Russel avait obtenu de louer à la fin du 19e siècle pour 99 ans, pour la somme modique de 1 franc, et massif dans lequel il a fait percer 7 grottes pour pouvoir recevoir ses amis. Il y avait la grotte des dames, la grotte des guides, la grotte etc. Et il y passait une bonne partie de l'été. Oui.
Qui c'était ce monsieur ?
Henri Russel. C'est mon dernier livre, c'est pour ça que je suis un peu savante.
D'accord, ok.
Non, et c'est un grand pyrénéiste.
Il y a quelque chose de surprenant aussi dans les Pyrénées, c'est cette grande gare dont j'ai perdu le nom.
Canfranc ?
Ouais, Canfranc. Ah, ça, c'est très surprenant. C'est, oui, c'est
très, il paraît très qu'il surprenant. La relance, là. Il la refond.
C'est la plus grande gare d'Europe.
Ouais. Ouais. Elle est immense, elle est au cœur des Pyrénées, elle est désertique. Quand on visite ça, c'est très, très, très étrange comme lieu.
Oui.
Voilà, c'est une part de l'histoire pyrénéenne, ça aussi, qui est un peu tombée en désuétude. Mais tu me dis que ça se relance ?
Oui, j'ai lu un article, pas plus tard que ce matin, sur dans le... Oui. Ils entament des travaux pharaoniques pour pouvoir...
Déjà pharaoniques.
Ouais, oui, bah, il faut. Ouais, ouais, ouais.
Parce qu'il a le petit train jaune.
Ah oui, il y a le petit train jaune de la Rune.
De la Rune, voilà.
Il y a celui aussi
De dans le micro, parce que sinon ça ne marche pas.
Oui, pardon. le petit train catalan,
oui.
qui part de la tour de Carole,
voilà.
Et qui va à Villefranche-Conflans. Voilà.
Oui.
Le petit train jaune.
Oui.
Heureusement, on arrive au bout de cette émission. Oh, on n'a pas goûté le bizarre. Hop, le bizarre. Attention, on attaque le bizarre. Alors, ouais. C'est une liqueur jaune qui ressemble assez à du citron.
Ou
une huile d'olive un
là,
peu.
On revient de la, si vous voulez,
ou des urines.
L'esprit érudit peut surnager un certain temps, mais on se noie rapidement, si vous voulez, dans les boissons. Voilà.
C'est moi, ça ressemble un peu à de l'urine.
On n'a pas l'habitude d'avoir des gens comme vous, savez.
Ça me plaît beaucoup, moi. J'aimerais bien revenir.
Mais vous êtes la bienvenue. Ça fait du bien, c'est une bouffée d'oxygène.
Un limoncello plus quelque chose.
Un limoncello, ouais.
Oula, là il y a de la noix. Il y a de la noix.
Oui, ce sont des saveurs que l'on trouve dans le produit de base. Hein. C'est-à-dire, tu as de la fleur d'oranger, tu as de la. Ouais. Comment ça s'appelle
de l'amande.
De l'amande, tout ça. Et
ouais.
Tu sais ce que c'est? C'est une liqueur d'huile d'olive.
Ah ouais?
Ah bon?
Non, mais c'est pour ça que ça ressemble à
de la macération.
Ouais, macération d'huile d'olive.
Ah, c'est très étonnant, dis donc.
Ouais.
Mais on dirait que ça change de ça couleur quand c'est dans le verre.
Ça arrive d'Espagne.
Non, mais parce que
ah, mais tu vois, on peut s'ajouter parce qu'en fait, c'est huileux.
Il restait du rouge. Ah, oui.
Mais c'est huileux, en fait.
Oui, c'est huileux, c'est ça. Et ça a la texture de l'huile en fin de bouche.
C'est ça. Et même dans le verre, t'as l'impression que t'as versé une pointe d'huile dans le verre. Hein. Donc, c'est très bon.
C'est marrant.
Et ça, ils te le servent plutôt en apéro ou plutôt en Dijon?
En Dijon.
Et ça vient d'où?
Ça vient d'où? Ça vient d'où?
Espagnol, ça. C'est espagnol, ça vient de...
Calilia de
Palafrugell. C'est au-dessus de Valence, c'est à San Mateo.
Ah non, mais d'accord, c'est pas du tout pyrénéen.
Et le nom?
C'est bêtement liqueur d'olive. D'olive.
Ah ouais.
Liqueur d'olive, liqueur d'huile d'olive. Étonnant. Eh ben voilà, c'était une spéciale pyrénéenne. On s'est un peu égaré dans les chemins.
C'était parfait pour moi.
De la grande chaîne. Merci beaucoup. Comment s'appelle votre dernier livre?
Henri Russel, Montagnard des Pyrénées.
Bon, et ben voilà, on se le procurera. Merci Anne Lasserverne d'avoir été avec nous.
Un dernier point, il y a le domaine Montus qui montait des barriques de Château Montus du Madiran. À 2000 mètres pour les faire vieillir.
D'accord. À 2000 mètres, donc dans les Pyrénées.
Dans les Pyrénées, oui.
Faut Montus aux Pyrénées. Merci pour tout.
Voilà. C'était Qu'est-ce qu'on déguste en direct depuis le 5 boulevard Garrison à Montauban avec...
Il faut aller à Gaillac, au boulot, chez Lulu. Elle a pu réouvrir, donc il faut aller...
Ah, tu nous en avais parlé la semaine dernière, dernière fois.
Pour une émission chez elle.
Chez qui, tu dis que...
Chez Lulu.
Chez Lulu, à Gaillac.
Chez la grosse Lulu.
Ah ouais, mais trop bien. Oui, ça arrive. On va y aller. C'est tout ?
Ben, c'est très bien.
Allez, salut, à la prochaine.
Merci.
Au revoir.
CFM. Vos infos.